Ah, les amis, midi 31, 418-971-1021, 418-971-1021. Je regrette de ne pas être venu en moto un matin.
Ah ben là, moi je pense que tu as pris la bonne décision. Là.
On regardait la mer à Théo. On regardait la mer à Théo, ça nous annonçait un 30% de probabilité d'averse ce matin. Je me suis dit, je prendrai pas de risque, je vais y aller avec ma voiture. Finalement, il n'y a pas plu sur Québec. Je m'en viens, mon oncle. Je m'en viens, princesse.
Okay, tu trouves que tu t'en viens?
Oui, parce que j'ai tout mon kit de pluie. Mm-hmm. Puis j'aurais pu prendre le risque en me disant, ben, s'il pleut, je mettrai mon kit de pluie.
Mais t'as quand même des enfants, c'est correct de faire attention, ça glisse lorsqu'il pleut.
Ouais.
Mais t'es pas du jour au lendemain devenu un peu plus mononcle et princesse.
Je vais me ressaisir. Je vais redevenir le marceau que j'étais dans le temps, extrêmement courageux. Ah, hey, ça brasse à Lévis, ça brasse comme pas possible. Lévis, en fait, à la grandeur du Québec, c'est une des villes qui s'est le plus développée dans les dernières années. Puis on saluait l'administration du maire Lehoulier qui travaillait fort pour développer la ville. Problème étant qu'on a travaillé à développer la ville, on a juste oublié la capacité de traitement des eaux. Et là, ben, on prend des décisions. D'ailleurs, il y a un moratoire qui est en place là, pour les nouvelles constructions dans certains secteurs à Lévis. Là, on a pris une décision qu'on va annoncer au prochain conseil de ville. On va demander une redevance, Pascal, qui pourrait atteindre un 5 400 $ par porte qui serait exigé aux promoteurs qui voudront construire à Lévis dans l'avenir. Ça fait des mécontents. Si vous trouvez que Lévis s'est beaucoup trop développé dans les derniers mois, dans les dernières années, vous dites « Ouais, ben ça fait peut-être un peu plus mon affaire », mais n'en demeure pas moins que de demander ça aux promoteurs. Ça, en bout de ligne, c'est toi puis moi, si on veut aller s'établir à Lévis, qui allons payer. De ce qu'on comprend, c'est que les gens qui habitent Lévis depuis des années, vous n'êtes pas touchés avec ça. Mais si vous aviez l'intention d'habiter à Lévis dans un fameux condo tout inclus, ben sachez que ça se peut que ça, le prix augmente là. C'est un 5 400 $, c'est énormément d'argent.
Une bonne différence en pourcentage.
On en parle avec Marie-Josée Morancy qui est présidente directrice générale à la Chambre d'industrie du Grand Lévis. Merci d'être là, Mme Morancy. On me dit que vous êtes en vacances.
Bien oui, puis moi aussi je voulais partir faire un petit road trip, puis je me suis limitée ce matin. Je fais des entrevues à la place.
Fait qu'il faut cesser d'être mon oncle et ma tante, faut redevenir comme
voilà.
On était lorsqu'on avait 25 ans, Mme Morancy.
Qu'on regardait pas la météo, effectivement.
Ouais. Comment perçoit la Chambre d'industrie du Grand Lévis cette décision-là du maire Gilles Lehoulier de charger 5 400 $ mm-hmm. par porte dans un avenir rapproché aux promoteurs qui voudront construire à Lévis?
Ben, je ne vous cacherai pas qu'on était encore une fois pris de court. Hein. Le moratoire nous avait pris de court en novembre dernier, vous vous souvenez. Là, on est rendu, le maire en avait parlé, là, qui voulait arriver en février 2024 avec des redevances, etc. Par contre, avec le moratoire actuel, vous savez qu'il y a plusieurs promoteurs très insatisfaits. Il y a un contexte d'incertitude aussi qui est associé. Puis on arrive avec la redevance en plein milieu estival avec des consultations dans l'été. Nous, on comprend pas parce que quand même, vous savez, on va être en élection aussi. Donc, puis en plus, la Chambre de commerce, nous, on siège sur le comité consultatif. Donc, il y a plusieurs joueurs importants autour de la table. Je pense à l'Institut de développement urbain, la PCHQ, la CQ. Et on l'a appris dans les journaux, encore une fois, cette redevance-là ce matin. Fait que nous, on pensait avoir un canal de communication, une façon justement de voir à trouver des solutions ensemble pour bien représenter nos entreprises, nos promoteurs. Mais écoutez, encore ce que ça nous dit, si je peux terminer là, pour vous laisser la parole, ce que ça nous dit ce matin, c'est qu'on va travailler avec la prochaine administration, le prochain maire ou la prochaine mairesse pour trouver d'autres solutions. Parce que s'il y a été, nos promoteurs ont proposé des solutions temporaires qui sont en train d'être analysées. C'est que revenir avec une redevance, c'est pas mauvais, hein, sachez-le. Puis arrêtez-moi si je parle trop, là, mais Terrebonne, Brossard, Beauharnois, Gatineau, Némite, au Québec, il y en a plusieurs qui vont avec ce modèle-là.
Oui, c'est ça. Ils se sont donné une nouvelle façon de taxer les promoteurs, puis par le fait même, taxer les gens qui veulent aller vivre dans leur ville.
Mais c'est pas mauvais en soi.
Oh, moi, chaque fois qu'on invente une taxe, madame, c'est jamais une bonne nouvelle pour moi, je peux vous le dire.
Non, mais ça permet d'avoir de meilleurs services publics, etc., quand c'est planifié à l'avance.
Ouais.
Nous, ce qu'on dit ce matin, c'est que là, on arrive avec ça en plein moratoire. Les entrepreneurs sont pris à la gorge. Puis on arrive avec de nouvelles charges dans un secteur qui est déjà fragilisé. Donc, nous, on comprend juste pas.
Sachant qu'à Lévis, on voulait justement ouvrir la porte aux promoteurs puis avoir le plus possible de beaux édifices qui grimpent en hauteur, pourquoi on ne s'est pas préparé d'avance face aux aqueducs, face aux infrastructures? Est-ce que c'est une mauvaise planification de ce côté-là? Parce que j'ai toujours vu, moi, une gestion rigoureuse depuis que M. Leaulier est arrivé en place. Toujours vu une gestion rigoureuse qui plaisait beaucoup aux citoyens de Lévis. Mais là, on se rend compte qu'on a dit oui à beaucoup de gens qui ont bâti de beaux édifices. Puis là, ben, les infrastructures peinent à la demande. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise planification de la part de l'administration?
Ça, c'est le morceau de puzzle qui nous manque. Évidemment, il s'est passé quelque chose. C'est M. Leaulier a fait de très, très belles choses dans le développement économique de Lévis. Tant, on ne se le cachera pas. Là, on est premier en vitalité en développement économique à Lévis au Québec. Puis là, ce qu'on dit à nos promoteurs, ben c'est pas grave, vous pouvez aller développer ailleurs. C'est quand même particulier, parce que en arrivant avec cette redevance-là, vous dites, ben écoute, là, vous êtes pas content, ben il y a Québec, puis la périphérie de la Chaudière-Appalaches qui peut vous accueillir, parce qu'on est la première ville de la région à adopter une telle mesure. Fait que évidemment, ce matin, il y a beaucoup d'inquiétudes qui est soulevée par nos promoteurs quant à la compétitivité de notre territoire. Là, on regarde les autres municipalités afférentes, c'est quand même assez inquiétant.
Mais c'est fascinant parce que dans les dernières années, on parlait de votre région, votre coin, Lévis, comme étant extrêmement dynamique, extrêmement intéressant, où vivent, où les projets fusaient de toutes parts, puis la communauté était mise justement là, à profit dans tout ça, peu importe qui travaillait au dit projet. Mais d'entendre que les communications sont rendues celles que vous nommez ce matin, y a-t-il un moyen de rétablir le tout, que votre canal ne soit pas bloqué, ou ça va continuer comme ça, vous allez l'apprendre dans les médias, puis
on travaille fort là-dessus parce qu'on ne comprend pas pourquoi on n'a pas une communication plus fluide avec la ville. Puis pourtant, j'ai d'excellentes relations avec eux. Puis le comité consultatif a été placé à notre demande. Je vous ai parlé tantôt des joueurs qui sont autour de la table, des joueurs d'importance. C'est nous, on est là pour représenter nos entreprises, nos promoteurs. Puis on a dit une fois un comité consultatif, on doit être gardé dans la loupe parce que nous, on a appris aussi le moratoire. Quasiment dans les médias, à deux jours avant, on l'a appris, mais mon Dieu, on était devant le fait accompli. Donc, nous, ce qu'on a demandé, c'est plus de prévisibilité. On peut comprendre qu'on s'est peut-être développé trop vite. Je vous ai parlé du morceau de puzzle qui nous manque. C'est pas mon rôle de trouver ce qui s'est pas fait. Mon rôle, c'est de dire, on peut trouver des solutions.
Mais en même temps, Madame Morancy, vous avez raison, c'est pas votre rôle, c'est à la ville de savoir si, exemple, puis tu sais, sur Guillaume Couture, puis sur le boulevard principal là, en face du Pizza Délice, comment ça s'appelle celui-là, la Kennedy, le restant de la Kennedy. La Kennedy, bon, c'est à l'administration, Leaulier, de regarder. Bon, on construit un gros édifice à condos là, il va y avoir 200-300 nouveaux résidents. Est-ce que nos infrastructures sont correctes? Si les infrastructures ne sont pas correctes actuellement, c'est soit qu'on n'octroie pas le permis ou soit qu'on planifie dans un avenir très rapproché des modifications au niveau du traitement des eaux, par exemple, au niveau des égouts. Je ne comprends pas pourquoi c'est encore une fois les promoteurs qui payent pour une gestion qui aurait dû être faite à l'avance. Là, on est comme, on est dans le trouble, on a trop développé, fait qu'on met un moratoire. On est dans le trouble, faut bâtir ci, faut bâtir ça, fait qu'on va charger une surtaxe supplémentaire. Il n'y a rien de pire parce qu'en réalité, c'est les gens qui vont aller s'établir à Lévis qui vont payer cette surtaxe-là. C'est pas M. Leaulier.
Tout à fait. C'est ce qu'on décrit, là, d'ailleurs. Les frais, là, vont être refilés aux acheteurs.
Exact.
Là. C'est clair, net et précis. Il ne faut pas se leurrer. Fait que c'est pour ça que c'est important, tu sais, de prendre soin aussi de nos promoteurs qui développent. On se targue d'être la ville numéro un en développement économique à Lévis. Et avec raison, là, on a fait des super belles choses, mais il y a encore tellement de possibilités. Et là, on est prêt qu'un moratoire sur l'ensemble, je dirais, deux tiers de notre grand territoire pour les deux prochaines années minimalement, hein, parce que vous savez que c'est toujours deux ans à la fois avec cette loi-là. Fait que c'est un dossier qu'on se doit de suivre parce que nos entrepreneurs, là, je l'ai dit tantôt, là, ils ont fait d'énormes investissements. Puis là, ils attendent des réponses, mais plusieurs que leur projet est gelé, puis on arrive avec une autre redevance. À un moment donné, il faut leur donner de l'air. Là.
Il y a eu une augmentation aussi sur le dernier budget. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu une augmentation de 6% sur les taxes pour les immeubles de 6 logements et plus. Puis pour ce qui est des unifamiliales, c'est 1,2%. Mais je prends les immeubles à logement qu'on a à Lévis. Les loyers sont déjà très élevés là, dans la grande région de Québec, et j'inclus Lévis là-dessus. On impose un 6% pour les propriétaires des l'immeuble. Puis eux autres, ben, vont devoir refiler la facture à leurs locataires qui, eux, vont se plaindre des augmentations de loyer pour la prochaine année. T'sais, c'est une roue qui tourne constamment. Donc, si on accepte toujours les surtaxes ou les taxes qu'on vient d'inventer, je veux dire, on n'en finira plus. Puis la capacité de payer des gens qui vont aller à Lévis va tout simplement diminuer avec le temps.
Tout à fait. On vient de passer le 1er juillet. On est en pleine crise de logement. Fait que si on veut vraiment que nos promoteurs investissent dans les projets résidentiels, bien évidemment, il faut les supporter. On ne se le cachera pas. Là. Sinon, ils vont aller ailleurs. Je l'ai mentionné. Là. Au niveau de la compétitivité, ils vont aller du côté de Québec. Ils vont regarder Bellechasse. Ils vont regarder autour de Lévis où est-ce qu'ils pourraient développer. Fait que ça, c'est vraiment pas très bon comme message qu'on envoie.
Madame Morancy, vous travaillez très fort. Je vous laisse à vos vacances.
Bien, ça a été un grand plaisir de jaser avec vous. Bon après-midi.
Merci.
Bye-bye. Marie-Josée Morancy, qui est présidente directrice générale de la Chambre d'industrie du Grand Lévis. Très intéressante, soit dit en passant. C'est pas la première fois que je l'entends ici. Puis j'adore cette personne-là. Les taxes qu'on invente, là. Puis tu sais, on parlait la semaine dernière avec Bruno Marchand. Puis je disais que la capacité de payer des gens avait sa limite, là, d'inventer tout le temps des nouvelles taxes. Ah, c'est juste 60$ qu'on vous demande pour l'immatriculation. Ah, c'est juste 10$ qu'on vous demande pour les chats. Ces gens-là, on dirait qu'ils n'ont plus conscience de tout ce qu'ils peuvent demander.
Mais c'est vrai que c'est des petits montants, mais c'est le cumul qui est
exact.
Important.
Comme
tu as
dit au maire Marchand.
Puis ça fait mal.
Mais on dirait qu'ils s'en rendent plus compte.
Ça se peut qu'ils se sont rendus compte de ça pendant.
On est original, mais... on trouve des nouvelles façons de taxer, puis les gens sont plus heureux à Québec. Attends un peu, là. C'est parce que si on est tous pauvres, on ne sera pas tous plus heureux. Là. T'sais, on paye toujours, les services se bonifient.
Mais les gens vont déserter la ville de Québec aussi. Il y en a qui n'ont vraiment plus cette capacité-là.
Et le maire Marchand me disait, oui, mais Yann, toi, tu n'utilises pas ces services, mais il y a d'autres personnes qui peuvent utiliser ces services-là. Si tu bonifies constamment les services puis tu en inventes d'autres qui servent à 2-3 % de la population, Pascal, à un moment donné, tu n'es plus efficace. Là. Si tu mets un service qui va servir à 80, 70, 60, 50 % des gens de Québec, ben OK, on peut peut-être y penser. Mais si tu mets des choses en place qui coûtent une fortune puis qui servent à 2-3 % de la population, tu peux-tu laisser ça de côté puis nous laisser notre 60$ pour l'immatriculation?
Puis, tu sais, ce qui est tough, c'est de reculer par la suite. Quand tu as connu cette enveloppe budgétaire-là supplémentaire, mettons cet ajout-là avec la taxe à l'immatriculation, tu l'as mis à quelque part. Bien, dans l'année qui va suivre, tu vas vouloir encore ce montant-là pour le remettre où tu l'as mis. Parce que c'est ça qui t'a padé, c'est ça qui t'a patché, puis c'est la manière dont tu as réussi à trouver ton argent. Mais ça, tu vas peut-être en avoir besoin pour vrai avec des projets d'envergure importants pour la Ville de Québec dans les années qui vont suivre. C'est quoi, tu vas les collecter encore plus?
Tu sais, puis on a tendance à faire confiance à nos experts. Puis c'est important. Là. On les envoie à l'université, on paye pour leurs études, puis ces gens-là se forment. Puis à un moment donné, ils décident de, moi, je deviens urbaniste, moi, je deviens ingénieur à la ville. Puis là, ces gens-là se jasent. À Lévis, là, on le voyait du côté de la Rive-Nord. Il y avait une certaine tendance à la jalousie. On disait, mais tabarouette, la ville de Lévis se développe à une vitesse fulgurante. Puis on était là, monsieur Lehoulier, vous êtes le meilleur maire de la Terre. Bien là, on s'aperçoit qu'ils ont peut-être oublié des trucs dans les dernières années. L'usine de filtration de l'eau, c'est important dans une ville.
Les canalisations, le marabon en faisait là, sa priorité. Il a mis beaucoup d'argent, par exemple, auparavant là-dedans.
Mais c'est pas sexy.
Non, c'est pas sexy, mais il le fait quand même. Puis c'est pour ça qu'on est capable d'avoir une taxe à l'immatriculation pour des patinoires réfrigérées. Parce que ben là, c'est du gravy. C'est vraiment le fun. Sauf que notre minimum, lui, est-tu atteint?
Exact.
Puis le minimum, c'est aussi l'augmentation des taxes résidentielles. Ça n'aurait pas dû être ce qu'on connaît en ce moment. Pour moi, le minimum, c'est de faire en sorte de ne pas faire saigner les gens dans une période économique trouble.
Exact. Il se passe quoi dans l'actualité, Jérémy?
Bien, il y a une couple de trucs, mais je te dirais, on est pas mal du côté des vacances, Yann. Par contre, je dois souligner le décès de Jacques Salvaille, qui était une vedette de la télé dans les années 70. Ça a fait jaser un petit peu. Les médecins spécialistes aussi, avec le record de Québécois, en attendent depuis 5 ans. En 2020, Yann, on attendait de voir un médecin spécialiste autour de 500 000 Québécois. Maintenant, on est rendu à 1 million. C'est énorme. C'est 5 ans plus tard seulement, puis ça fait des ravages, veux pas. On a des histoires aussi sur Mark Carney, parce que là, Carney détenait des intérêts dans 569 entreprises, entre autres Google, Amazon, Meta, et on en parle aujourd'hui parce que c'était avant son élection, bien sûr, mais le bureau du commissaire aux conflits d'intérêts puis à l'éthique a publié la semaine passée là, la liste des actions de M. Carney qui possédait avant une fiducie là, sans droit de regard. Quand est devenu premier ministre en mars, ces actions-là. C'est une liste qui est imposante, c'est une quinzaine de pages. Après, c'est à vous de voir, est-ce que ce gros portefeuille-là vous dérange ou vous trouvez que ça a été bien géré? Sinon, un des militaires qui a été accusé dans le dernier... Ça, c'est, je pense que c'est le dernier cas qui nous a subjugués dans l'actualité. Les extrémistes violents qui voulaient prendre possession d'une partie de terre à Québec ici. C'était pour certains des militaires de l'armée canadienne. Et un des militaires de Valcartier est accusé puis a été déployé, lui, en mission. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment participé à une mission de l'armée canadienne. Ces militaires-là, lui, d'entre autres, est soupçonné d'être de cette livrée de l'extrémisme violent puis avait été déployé dans le cadre de deux missions de l'armée canadienne au cours des dernières années. C'est Matthew Forbes. Il a 33 ans. En 2019, il est allé dans une opération, ça s'appelle Reassurance des Forces armées canadiennes. Et là, on commence à avoir un petit peu plus d'informations de ce qui sort de la cour, mais notamment en Lettonie, en Roumanie, en Islande, en Lituanie. Et c'est une mission quand même très, très importante outre-mer de notre armée.
Ouais, y a un auditeur qui est proche d'un des quatre qui s'est fait arrêter, là, qui nous a entendu la semaine dernière puis qui m'a envoyé un beau petit texte. Et lui, et moi, je vous le raconte, là, mais c'est sa version à lui, est persuadé que c'est une histoire comme les grandeurs nature. Tu sais, des gens qui se réunissent là, avec, avec des épées et tout ça, puis qui se créent des histoires à l'intérieur pour dire bon, ben là, le chevalier fait telle affaire.
Puis là, ils sont vraiment dans leur... Tu sais, moi, je suis allée participer à ça, là, en passant pour un reportage. J'aime ça quand même le préciser.
T'es trouvé un chum à bicoline!
Ils sont dedans, là. Je veux dire, moi, j'ai essayé de parler à un homme qui avait une tête de loup, déguisé en loup, puis m'a juste grogné dessus pendant deux jours. Donc, tu sais, ils sont dedans, là. C'est du théâtre de haute voltige.
Okay. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que c'était possiblement ça, et il en était persuadé à 100%. Est-ce que la GRC pourrait s'être fait prendre dans une histoire de bicoline des pauvres avec des soldats qui voulaient prendre possession d'un territoire à Québec? Je le sais
pas. Que c'était dans leur scénario fictif.
Est-ce que la Sûreté du Québec, en regardant ce que la GRC avait de son bord, en disant « Ouais, t'as la fin, OK, ça a du bon sens, on va continuer de suivre ces gars-là », est-ce que ça avait du bon sens? Moi, ce que j'ai répondu à l'individu qui était près d'un des quatre, là, c'est « Écoute, ils ont-tu réquisitionné des armes qui étaient illégales? » La réponse, c'est oui. Ils ont-tu trouvé des grenades fumigènes puis des grenades éclairantes? La réponse, c'est oui. Est-ce que ces gars-là, ces quatre gars, tes chums qui ont été arrêtés, est-ce que les quatre avaient le droit d'être en possession de ces armes-là? La réponse, c'est non. Puis là, j'ai pas eu de réponse de l'individu. Mais si, en bout de ligne, c'est une histoire patentée comme bicoline...
Mais ça va se démanteler en cours. Si c'est ça, ça va...
Ça aurait pas de bon sens, Pascal. Ça aurait vraiment pas de bon sens. Je veux revenir sur ton histoire de médecin spécialiste.
Oui.
Là, tu l'as dit, le 4 janvier 2020, il y avait 500 637 personnes qui attendaient de voir un médecin spécialiste. Et en 2025, soit le 31 mai, c'est presque le double, donc on est à 909 000 personnes qui attendent de voir un médecin spécialiste. Données inquiétantes, Pascal. Le nombre de patients dont l'attente est considérée comme hors délai augmente lui aussi. Ils étaient de plus de 580 000 ce printemps, 64% des demandes de consultation. Et en janvier 2020, c'était 35%. Ça, c'est des gens qui sont considérés comme hors délai. C'est-à-dire que là, s'ils ont un problème, exemple, de cancer, Pascal, quand ils sont hors délai, ça se peut qu'ils crevent avant même de rencontrer un médecin spécialiste.
C'est plus triste.
Et ça, c'est
que ça devient, justement, une histoire de cancer au palliatif. Là.
Selon les 5 codes de priorité, les délais peuvent être de moins de 3 jours avant de voir un médecin à 1 an. ORL, on est à 63 % hors délai. Dermatologie, ça, c'est pas mal eux autres qui regardent si c'est un cancer de peau ou pas. 65 % des cas sont hors délai. Immunologie, 62 % des cas sont hors délai. Gynécologie, c'est quoi ça, Pascal?
Tu sais, c'est quoi? T'es niaiseux.
52 % qui sont hors délai. Chirurgie plastique, 80 % qui sont hors délai. Puis ça, en passant, chirurgie plastique...
C'est pas implant mammaire et tout ça, c'est grand brûlé.
Malheureusement. Excusez, c'est pas ça que je voulais dire. C'est effectivement...
Sérieux? C'est lundi, fais attention!
C'est effectivement les grands brûlés. Puis là, c'est triste en maudit. Là. 80 % des cas qui sont hors délai. Gastro-entérologie, on est à 75 % des cas qui sont hors délai. Quand vous me dites que le système de santé coûte cher, là, c'est plus $1 milliard par semaine qu'on envoie au système de santé et on est hors délai avec une moyenne d'à peu près 65-70 %, Pascal. complètement fou.
Moi, ça me sidère parce que, tu sais, on en parle de façon pas froide, mais on est analytique. On a un texte devant nous, du journal. Mais imagine les histoires des gens, des individus. Que c'est des membres de famille, que c'est eux, que c'est des pères, c'est des mères de famille, c'est des amis, c'est un quotidien qui, en plus d'avoir aucune réponse, est probablement fort désagréable par une condition physique qui t'empêche de vivre. Tu sais, la vie, on en a une. Puis la vie va vite. C'est beaucoup plus crucial que juste des statistiques là-dedans. Puis je suis certaine que tous les bons médecins de ce monde puis toutes les bonnes personnes qui sont en santé pour cette raison-là le comprennent puis trouvent ça aussi fulgurant puis ahurissant que nous autres. Mais je te dis, on ouvrirait les valves, là, au 88-971-1021, au nombre d'histoires qu'on pourrait avoir. Puis c'est à briser des cœurs.
Mm-hmm. Ah, moi, j'encourage des familles, puis je salue la famille Teasdale, là, Olivier, qui était extrêmement proactif dans la mort de son père. Ils vont poursuivre le gouvernement, puis Oli, de semaine en semaine, il reçoit de nouvelles informations concernant la façon dont on a traité son père. Puis pour faire une histoire courte, là, Jacques Teasdale, c'est un gars qui était dans les médias, puis à un moment donné, il s'est pointé à l'hôpital, puis dans les dossiers, il y avait... un élément qui aurait peut-être pu lui sauver la vie, mais ils ont juste oublié de le rappeler, ce qui fait en sorte qu'il est devenu encore plus malade, Pascal, et il en est décédé.
Je comprends dans des souffrances. Là.
Je comprends que l'erreur est humaine, là, mais quand c'est ton père, quand c'est ton frère, ou quand c'est ta sœur, comme tu l'expliquais tantôt, quand c'est ton enfant, les erreurs de même, là, d'oublier de rappeler quelqu'un par rapport à son dossier, ça devrait jamais, jamais arriver. 1052, on fait une courte pause, 418-971-101, on revient.